Hier, j'ai remarqué que ma fille cadette portait des pièces de monnaie dans sa poche. Elle m'a dit qu'elle les avait trouvées sur le comptoir de la cuisine. J'ai regardé de plus près les pièces et j'ai réalisé que ce n'étaient pas des pièces de 2 groschi. C'était 2 pièces de 2 zloty et 1 pièce de 5 zloty. Ma fille de 3 ans se promenait avec 10 zloty dans sa poche. 10 zloty peuvent acheter un hot dog à Japka. Cela peut acheter 1 kilo de bananes. 10 zloty, ce n'est pas la même chose que 10 groschi. On ne peut pas acheter grand-chose avec 10 groschi. Mais pour ma fille de 3 ans, tout cela était pareil. Ce n'était que des pièces. Elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle ne savait pas que les pièces qu'elle portait étaient si précieuses. Permettez-moi de vous poser la question ce matin. Savez-vous ce que vous avez en Christ? Connaissez-vous les richesses spirituelles que vous possédez déjà en lui? Comprenez-vous tout ce que vous avez en Christ? C'est à cela que j'aimerais que nous réfléchissions ce matin. Si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Éphésiens chapitre 1. Il y a quelques semaines, nous avons commencé une nouvelle série de prédications en étudiant la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Nous avons examiné l'ouverture du premier chapitre, où Paul présente les merveilleuses vérités selon lesquelles, en tant que croyants, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que Dieu ne crée une montagne, une île ou un nuage, il t'a choisi. Nous avons vu qu'en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, et qu'en tant que croyants, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce, pour mettre en valeur sa grâce étonnante. Continuons. Verset 15. 15. C'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour envers tous les saints. Rappelez-vous, Paul est en prison à Rome lorsqu'il écrit cette lettre. La distance de Rome à Éphèse était d'environ 1600 kilomètres. Mais malgré la distance, Paul a reçu des rapports concernant l'Église qu'il a contribué à fonder. Et de quoi parlent ces rapports? Entend-il parler de la taille de l'Église? Entend-il parler de leurs excellents programmes? Entend-il parler de leurs belles installations? Entend-il parler de leurs enseignants extraordinaires ou de leur bonne musique de louange? Ce dont Paul entend parler n'est rien de tout cela. Voilà des choses que nous pourrions considérer comme très importantes dans une Église. Un bel espace, de bons programmes, des enseignants doués et une musique de louange de qualité. Ces choses sont bonnes, mais nous voyons ici que ces choses ne sont pas ce qu'il y a de plus important pour Paul. Les choses qui se passent dans l'Église et qui encouragent le plus Paul, c'est la foi et l'amour de l'Église. Bien sûr, Paul parle de leur foi en Christ pour le salut, mais il parle aussi de leur foi active. Ils marchent par la foi au quotidien. Ils font des pas de foi. Ils marchent par la foi et non par la vue. Le week-end dernier, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec une famille qui faisait autrefois partie de l'église gospel, mais qui a déménagé en Espagne il y a 1 an et demi. Ils ont trouvé une bonne église internationale, mais elle était à 1 heure de route. Ils désiraient quelque chose de plus proche. Alors, en avril dernier, je leur ai demandé « Et si vous aidiez à démarrer une église dans votre ville ?» Je ne me souviens en fait pas avoir dit cela, mais ils me l'ont appelé le week-end dernier. Ensuite, Dieu a utilisé d'autres événements et conversations pour faire grandir cette semence dans leur cœur et leur esprit. Au cours des mois suivants, je prenais de leurs nouvelles et nous prions ensemble. L'église qui se trouvait à 1 heure de là a dit qu'elle souhaiterait soutenir une nouvelle église dans leur ville. Il n'y avait qu'un seul problème. Il n'y avait pas de pasteur. Tom et Magda voulaient faire partie de l'équipe de base, mais ils ne se sentaient pas appelés à diriger de cette manière. Alors, ils ont prié, et ils ont décidé de commencer doucement. Le rassemblement aurait lieu 1 fois par mois, un dimanche soir, et ils inviteraient un pasteur invité à prêcher lors du culte. J'ai été honoré lorsqu'ils m'ont demandé de prêcher et d'aider à diriger la louange lors du premier rassemblement le week-end dernier. Il était prévu que cela commence à 17 heures. Nous sommes arrivés en avance pour tout installer et pour prier. Et à mesure que l'heure approchait, une question s'est posée. Et si personne ne vient? Et si 17 heures arrivent et qu'il n'y a que nous? Dans ces moments-là, je pense au psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et c'est le meilleur endroit où être. Marcher par la foi. C'est parfois un endroit effrayant, mais c'est le meilleur endroit où être. Faire confiance au Seigneur de tout son cœur. Paul a entendu parler de la foi de l'Église, et il a aussi entendu parler de l'amour de l'Église. Jésus a dit que le monde saurait que nous sommes ses disciples, à l'amour que nous avons. Et ici, il s'agit de cet amour agapé. C'est une forme d'amour qui prend soin, qui est attentionné et intentionnel. Ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des actes. C'est un amour qui se manifeste concrètement. Et si vous avez été dans une église assez longtemps, alors vous savez que ce genre d'amour n'est pas toujours facile. Cela demande des efforts. Parce que les gens sont différents. Nous avons des idées différentes sur la façon dont les choses devraient être faites. Nous avons des opinions différentes sur différents sujets. Par moments, il y aura des conflits. Mais je crois que lorsque nous traversons ces conflits de manière saine, nous devenons en réalité plus proches et plus forts en tant qu'Église. J'ai rencontré quelqu'un ici la semaine dernière, et nous parlions de son expérience dans l'Église et de la manière dont elle a grandi. Je lui ai dit qu'elle avait pu voir toute la gamme de ce que signifie faire partie d'une Église. Les bons moments, mais aussi la traversée de certains conflits. S'aimer les uns les autres n'est pas toujours facile, mais cela en vaut vraiment la peine. L'un des versets classiques sur l'amour se trouve dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ce chapitre est souvent lu lors des mariages, donc nous pourrions penser qu'il s'adresse au couple marié. Mais le contexte concerne en réalité l'Église. 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 7. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. 8. L'amour ne périt jamais. Oui, cela s'applique au mariage. Mais Paul parle à l'Église. D'après mon expérience, la chose la plus douloureuse dans le ministère est de voir des personnes s'éloigner. Que ce soit s'éloigner de l'Église ou s'éloigner d'un frère ou d'une sœur en Christ. En même temps, la chose la plus réconfortante est de voir des frères et sœurs en Christ se pardonner, traverser une épreuve ensemble et se réconcilier. Si Paul était vivant aujourd'hui, qu'entendrait-il à notre sujet? Qu'entendrait-il à propos de l'Église Évangile? J'espère et je prie qu'il entende parler de notre foi et de notre amour. 6. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul rend grâce à Dieu pour cette Église. Il se souvient de l'Église dans ses prières. N'est-ce pas agréable quand quelqu'un vous envoie un message au hasard pour vous dire « Hé, j'ai prié pour toi ?» Ça fait du bien de savoir que quelqu'un pense à prier pour vous. Cela vous montre que vous étiez dans ses pensées. N'oubliez pas de prier, pas seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Paul prie constamment pour ses frères et sœurs à Éphèse. Alors que demande-t-il pour eux dans sa prière? Paul prie que Dieu leur donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Pour le dire simplement, Paul prie pour que l'Église connaisse Dieu davantage. Un théologien dit, quel est le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? La seule chose dont nous avons besoin dans l'Église, c'est une connaissance plus profonde de Dieu. Nous avons besoin de mieux connaître Dieu. Maintenant, connaître Dieu ne consiste pas à mémoriser des faits sur Dieu. Il ne s'agit pas de réussir un examen théologique. Il est possible de connaître beaucoup de choses sur Jésus sans connaître Jésus, si vous voyez ce que je veux dire. Pour vraiment connaître Christ, il doit y avoir un échange. Il doit y avoir une intimité. Connaître Dieu signifie avoir une relation avec lui. Est-il en nous, et sommes-nous en lui? Plus nous connaissons Dieu, en lisant sa parole, et en étant sensibles au Saint-Esprit, plus nous savons ce qu'il veut que nous fassions. Plus nous savons ce qui lui plaît. Plus nous savons quelle démarche de foi entreprendre, et plus nous pouvons discerner sa volonté pour nos vies. Cette compréhension vient du Saint-Esprit, comme nous le voyons à la fin du verset 17. La sagesse et la capacité d'appliquer cette connaissance avec habileté à nos vies. Et lorsque Paul parle de révélation ici, il ne parle pas d'une nouvelle révélation ou de nouvelles informations. Au contraire, Paul parle de compréhension ou de saisir ce que Dieu a déjà révélé dans les Écritures. La prière continue. 18. Ayant les yeux de votre cœur éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage parmi les saints? Paul continue de prier. Et encore une fois, quelle est sa prière pour l'Église? S'agit-il de choses matérielles? Non, tout est spirituel. Il prie pour qu'ils aient l'illumination spirituelle, que les yeux de leur cœur soient ouverts. Paul veut qu'ils comprennent. Paul veut qu'ils saisissent les richesses spirituelles qui sont en Christ Jésus. En d'autres mots, dans un certain sens, ils ne savent pas ce qu'ils ont déjà en Christ. Ma fille se promenait avec 10 zlotys, mais elle n'avait aucune idée de ce que cela représentait. Elle ne savait pas ce qu'elle avait. Ce n'était que des pièces pour elle. Paul prie pour que les Éphésiens sachent ce qu'ils possèdent. Ma prière pour nous est que nous sachions ce que nous avons en Christ. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous sachions ce que nous avons en lui. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir. Je veux te voir. Que veut Paul qu'il connaisse? 3 choses. L'espérance, la richesse et la puissance. Premièrement, l'espérance. Nous avons une espérance en Jésus-Christ qui est inébranlable, inaltérable et irrésistible. Comme Paul l'a dit plus tôt, dans le chapitre 1, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Nous avons été scellés du Saint-Esprit et nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Vous avez de l'espérance pour aujourd'hui et vous avez aussi de l'espérance pour demain. Peu importe à quel point l'obscurité règne aujourd'hui, vous avez toujours de l'espérance parce que vous avez Christ. Il est la lumière dans les ténèbres. Paul dit à l'Église, « Je veux que vous connaissiez cette espérance. Je veux que vous compreniez cette espérance. Je veux que vous réalisiez ce que vous avez déjà. » Paul prie pour qu'ils connaissent l'espérance qu'ils ont. Il prie aussi pour qu'ils comprennent les richesses spirituelles qu'ils possèdent. Plus tôt, dans le chapitre 1, Paul parle de notre héritage, au verset 14. Mais ici, très probablement, Paul parle de l'héritage que Dieu a en nous, de la valeur que Dieu nous accorde, du fait que le Dieu de l'univers nous considère comme un trésor. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous voyez peut-être tout ce qui ne va pas chez vous. Quand vous considérez votre vie, vous voyez peut-être tous vos échecs, toutes les choses que vous n'avez pas faites. Ce n'est pas ainsi que Dieu vous voit. Il ne vous regarde pas en disant « Quelle déception, quel échec !» Il vous regarde et dit « Trésor !» Il vous considère comme sa précieuse possession. Le sais-tu? Selon la prière de Paul, la compréhension de cette connaissance ne vient pas automatiquement. C'est pourquoi les yeux de notre cœur doivent être ouverts. La connaissance se trouve au verset 18 pour que quiconque puisse la lire. Mais appliquer cette connaissance à votre cœur et à votre vie se fait par l'œuvre du Saint-Esprit. Paul veut qu'ils comprennent l'espérance qu'ils ont, les richesses spirituelles qu'ils possèdent, et, au verset 19, la puissance qu'ils ont. 19. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de la force de sa puissance. Paul veut que l'Église connaisse la puissance que nous avons en Christ. C'est pourquoi il utilise ici trois mots pour l'exprimer. Le mot grec utilisé ici pour puissance est dynamis, qui a donné en français le mot dynamite. Le mot grec pour efficacité est à l'origine du mot énergie. Et Paul conclut cette pensée en parlant de la force de Dieu. Paul dit que cette puissance ne peut pas être mesurée. À cette époque, l'Église vivait dans une atmosphère de croyances spirituelles et de cultes variés. Beaucoup de personnes dans cette culture vivaient dans la peur constante d'être attaquées par des forces spirituelles obscures. Et je suis sûr que cela s'est introduit dans l'Église. Paul dit, « Vous devez comprendre votre nouvelle réalité en Christ. Il y a un combat spirituel. » Nous en verrons plus à ce sujet au chapitre 6. Mais Paul affirme que le combat spirituel n'est pas équitable. Ce n'est pas le yin et le yang. En Christ, nous avons une puissance si grande qu'elle ne peut même pas être mesurée. Vous n'êtes pas sans puissance. Vous êtes puissant en Christ. Quel genre de puissance? Celle qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quel genre de puissance? La puissance de la résurrection. La même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts et pour l'asseoir à sa droite. La même puissance qui a écrasé l'ennemi est la même puissance qui vit en moi. Dis à ton voisin, tu n'es pas sans puissance. Tu n'es pas sans puissance pour vaincre la tentation. Tu n'es pas sans puissance pour vaincre le péché. Tu n'es pas sans puissance pour résister aux ruses du diable. Tu n'es pas sans puissance pour être un témoin du Christ, au travail ou à l'école. Dis à ton voisin, tu es puissant. Par Jésus-Christ, tu es puissant pour vaincre la tentation. Tu es puissant pour vaincre le péché. Tu es puissant pour résister aux ruses du diable. Tu es puissant pour être un témoin du Christ, au travail ou à l'école. Celui qui est en toi, Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. À quel point Christ est-il grand? Le verset 20 dit qu'il est assis à la droite de Dieu dans le ciel, et Paul continue. 21. Bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. 23. Laquelle est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que dit Paul ici? Il dit que Christ est au-dessus de toute chose. Le mal existe dans le monde. Nous vivons encore dans un monde pécheur et brisé. Mais Paul dit, vous n'êtes pas dans l'équipe perdante. Vous êtes l'équipe gagnante en Christ. Parfois des gens lisent des versets comme le verset 21 et deviennent craintifs. Ils commencent à s'inquiéter d'un démon caché derrière chaque porte. Et ainsi, ils voient des menaces partout. Le domaine démoniaque, disons, devient leur préoccupation principale. Mais est-ce cela que Paul essaie de dire ici? Non, Paul dit exactement le contraire. Il dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a aucune raison d'être effrayé. Parce que Jésus a vaincu le péché et la mort, une fois pour toutes à la croix, et par la résurrection. En d'autres termes, ils sont vaincus. Jésus règne. Il est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute domination, autorité, puissance et souveraineté. Pas seulement quelques-unes, toutes. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Pas seulement certaines choses, toutes. Jésus est le chef sur toutes choses, toutes. Il y a une bataille spirituelle chaque jour, mais tu n'es pas dans l'équipe perdante. Tu es dans l'équipe gagnante en Christ. Marche dans cette vérité, marche dans cette puissance, connais cette puissance. Tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre dans un monde brisé et déchu. Tu es plus que vainqueur en Christ. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Et à la fin des versets 22 et 23, Paul ramène tout à l'Église. Paul dit que Christ est la tête de l'Église. Je ne suis pas la tête de cette Église. Jésus est la tête de celle-ci. C'est son Église. Il est la tête, et nous sommes le corps. Nous sommes les mains et les pieds. Mais sans la tête, le corps ne peut pas vivre. Nous ne sommes pas des poulets. Nous avons besoin de la tête pour vivre, respirer et fonctionner. De la même manière, en tant qu'Église, nous avons besoin du Christ. Si nous n'avons pas le Christ, alors nous ne sommes pas une Église. Nous ne sommes qu'un groupe social. C'est le Christ qui nous rassemble et c'est le Christ qui nous soutient. Jésus nous aide à marcher par la foi. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dimanche soir dernier, en Espagne, nous avons tout préparé. Nous avons tout organisé. Les micros fonctionnaient. Nous avons installé des chaises pour que les gens puissent s'asseoir. Et nous avons prié. Et par la grâce de Dieu, à 17h, les gens ont commencé à arriver. Une nouvelle église est née. Nous avons adoré. Nous avons prié, la parole de Dieu a été prêchée, et tout le monde est resté après le culte pour prendre le thé, le café et partager un moment de convivialité. Pour faire court, Tom, Magda et Osette ont fait un pas dans la foi, et le Seigneur s'est manifesté. Faire un pas dans la foi peut être intimidant, on peut se sentir vulnérable, mais en tant que peuple de Dieu, il n'y a pas de meilleur endroit où être. J'étais reconnaissant d'être présent à cette première réunion, car cela m'a rappelé la première réunion de l'Église de l'Évangile. Cette semaine-là, nous avons traversé des moments difficiles en tant qu'équipe, mais nous nous étions engagés à avancer dans la foi et à demander à Dieu de se manifester. Ainsi, en mai 2011, il y a presque 15 ans, nous avons eu notre première réunion un dimanche soir. Et Dieu s'est manifesté. 2 ans plus tard, nous avons senti que le Seigneur nous conduisait à nous réunir le dimanche matin, ce qui signifiait qu'il nous fallait trouver un nouvel endroit pour nous rassembler. Cela nous a amenés à trouver une petite salle de conférence dans le centre commercial. Et quelques minutes avant notre première réunion ici, en février 2013, nous avons ressenti la même chose. Si Dieu ne se manifestait pas, nous étions fichus. Mais Dieu a honoré ce pas de foi. Et lorsque nous avons commencé à adorer, il y avait des personnes assises sur les chaises. En 2016, nous avons ressenti que le Seigneur nous guidait à lancer une église polonaise dans la ville. Nous étions une église bien plus petite. Mais si le Seigneur agit, que pouvons-nous faire ? Je me souviens avoir annoncé la vision à l'église à l'époque, et j'ai entendu quelqu'un pousser un cri de surprise. Mais 2 ans plus tard, nous avons imposé les mains et envoyé des membres de cette église pour commencer une nouvelle œuvre. 8 ans plus tard, l'église continue de se réunir et d'adorer. Ensuite, nous avons commencé à prier pour trouver un lieu plus grand où nous rassembler. Nous avons trouvé deux ou trois options, mais heureusement cela n'a pas abouti, car en 2020, les confinements sont arrivés. Dieu nous a protégés financièrement et a pourvu à un espace ici dans le centre commercial où nous pouvions nous réunir, tout en respectant les réglementations gouvernementales. En 2022, nous avons de nouveau eu le problème de ne pas avoir assez de place, mais Dieu nous a permis de nous réunir dans l'espace ouvert du centre commercial. Cela a été une bénédiction. Mais nous avons prié et demandé à Dieu un lieu où nous pourrions nous réunir toute la semaine. L'année dernière, Dieu a ouvert une porte pour cet espace. Nous avons fait un pas de foi et avons demandé à Dieu de pourvoir aux finances nécessaires pour rénover cet espace. Dieu a pourvu une fois de plus. Et maintenant que nous avons presque terminé les rénovations, la question devient, d'accord, et maintenant, quelle est la prochaine étape de foi que nous allons entreprendre en tant qu'Église? Eh bien, le premier dimanche, où nous nous sommes réunis dans cet espace, il était plein. Il y avait environ 30 personnes dans le couloir là-bas. Il y a eu des dimanches où il neigeait beaucoup dehors. Nous avons déjà eu des dimanches où il faisait moins 10 degrés. Et chaque fois que je me dis, il y aura peut-être moins de monde aujourd'hui, j'entre et j'ai l'impression que c'est plein. Alors, que faire? Ceci est notre espace pour le moment. C'est l'espace que Dieu nous a donné pour cette équipe et pour cette saison. Ainsi, afin d'accueillir non seulement ceux qui sont déjà dans l'Église, mais aussi les personnes que Dieu amènera dans les mois à venir, nous souhaitons ajouter un service supplémentaire d'adoration à 9h30. Autrement dit, le dimanche matin, nous aurons deux rassemblements, un à 9h30 et un à 11h30. Nous commencerons le service de 9h30 dans deux semaines, le 1er mars. Nous avons déjà entendu certaines personnes dire qu'elles pourront effectivement assister au service de 9h30. Elles n'avaient pas pu venir à celui de 11h30 à cause du travail. Et je crois qu'il y aura encore plus de personnes qui pourront être présentes à 9h30. Maintenant, il y a quelques aspects logistiques à régler et des plans à préparer. Mais nous voulons faire ce pas de foi et faire confiance au Seigneur pour qu'il règle toutes choses. Il y a quelques semaines, le pasteur principal de l'Église qui nous a envoyés ici a pris sa retraite. Et lorsqu'il s'est penché sur son ministère, il a dit « Parfois Dieu dit simplement « pars ». Et cela n'a pas de sens dans le budget. Et nous n'avons pas de grande stratégie pour cela. Nous marchons simplement par la foi. C'est cela, être un peuple de foi. C'est là où je veux être. Je ne veux pas jouer la sécurité. Je ne veux pas enterrer mes talents, comme dans la parabole. Pas de risque, pas de récompense. Je ne veux pas être en mode maintenance. Je ne veux pas seulement maintenir et continuer à faire ce qui fonctionne. Si c'était le cas, je préférerais simplement tout emballer et rentrer chez moi pour être proche de ma famille. Cela ne m'intéresse pas. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Je veux que lorsque les gens entendent parler de l'Église Gospel, ils entendent parler de notre foi et de notre amour. Pouvons-nous le faire? Absolument. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même puissance qui vit en nous. Il y a des personnes dans cette ville qui ont besoin de connaître l'espérance qui se trouve en Jésus-Christ. Il y a des personnes dans cette ville qui ont besoin de découvrir les richesses spirituelles qui sont en lui. Jerry a imprimé des flyers avec des informations sur l'Église et ils sont placés devant la porte toute la semaine. Et il doit sans cesse les remettre, car les gens continuent de les prendre. Depuis quelques semaines, j'essaie de rassembler les informations concernant l'Église à mettre sur les portes vitrées. Pour une raison ou une autre, cela a pris beaucoup de temps. Finalement, cette dernière semaine, tout s'est mis en place. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que nous devons indiquer que nous vous accueillons le dimanche matin à 11h30, mais aussi à 9h30. Voudriez-vous prier pour cette prochaine étape de foi? Envisageriez-vous de participer au service de 9h30? Comme je l'ai dit, il reste encore de nombreux détails à régler. Mais j'ai le sentiment que c'est la prochaine étape de foi pour l'Église Gospel. Et quand Dieu dit d'y aller, nous devons y aller. C'est cela, être un peuple de foi. Puisse-t-on comprendre et réaliser tout ce que nous avons en Christ, notre espérance, nos richesses, notre puissance. Puissions-nous chercher à mieux connaître Dieu, qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Puissions-nous nous aimer les uns les autres comme le corps du Christ. Et puissions-nous continuer à marcher par la foi. Cela peut être effrayant, mais c'est le meilleur endroit où nous puissions être. Fin du serment.